Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 23 septembre 2016. En direct de Washington, Idriss Assédoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
République démocratique du Congo, le dialogue national doit en principe reprendre aujourd'hui.
Au Gabon, c'est également aujourd'hui que la Cour constitutionnelle doit trancher le contentieux électoral entre Ali Bongo Ondimba et son rival Jean-Ping.
En Syrie, offensive majeure contre la partie rebelle de la ville d'Alep. Nouvelle rencontre aujourd'hui entre John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov.
Ici aux États-Unis, des centaines de manifestants ont protesté à Charlotte pour la troisième nuit consécutive contre le meurtre d'un noir par un policier.
Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à la 71e Assemblée générale de l'ONU avec notamment une interview du président sénégalais Macky Sall.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À Kinshasa, la vie a repris ses droits, mais la situation n'est pas encore totalement revenue à la normale, comme nous le dit Morgane Guiriec.
La circulation a été fluide dans la mégalopole, habituée à de gros embouteillages. L'activité économique a tourné au ralenti, beaucoup de boutiques sont restées fermées. Les écoles ont été désertes, les parents préférant attendre lundi pour y renvoyer leurs enfants. Les violences de lundi et mardi ont fait officiellement 32 morts, dont 4 policiers. L'UDPS, principal parti d'opposition, affirme qu'il y a eu plus de 100 morts. Et d'ailleurs, le parti d'Étienne Tshisekedi veut organiser une journée de deuil national pour enterrer les victimes. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, a annoncé que la ville-province prendrait en charge des funérailles. Le dialogue national a été suspendu à cause des affrontements et pillages. Les travaux de ce forum entre la majorité au pouvoir, des membres de la société civile et une partie de l'opposition sont censés reprendre aujourd'hui, vendredi, pour tenter de trouver une sortie de crise.
Peur de nouvelles violences et incertitude la plus totale au Gabon où la Cour constitutionnelle doit trancher le contentieux électoral entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean-Ping. Précision de Jean-Roger Bion.
Les Gabonais ne savent même pas si la Cour rendra sa décision ce vendredi dans les délais prévus par la Constitution, soit 15 jours après le recours de Jean-Ping contre la réélection d'Ali Bongo. La présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mburantso, a laissé elle-même planer le suspense hier soir à l'issue d'une séance publique où les avocats de Messieurs Bongo et Ping ont procédé à une dernière passe d'armes. Saisie par Jean-Ping, la Cour peut soit valider l'élection d'Ali Bongo, soit annuler l'élection présidentielle à un tour du 27 août, soit donner gain de cause au requérant qui se proclame le président élu. Dans les rues de la capitale Libreville, la tension est déjà palpable. À quelques centaines de mètres du cadre solennel de la cour, la garde républicaine avait coupé en fin d'après-midi hier la circulation sur le front de mer devant le palais présidentiel.
Dans l'ouest du Niger, ouverture en urgence d'un centre de traitement pour les malades de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift à Chintabaraden, proche de Tawa. Des détails avec Eric Manirakiza.
Les autorités sanitaires du Niger, appuyées par l'ONG à Lima, ont ouvert un centre de traitement à Kintabaraden, touché par l'épidémie. 26 personnes ont été hospitalisées et des équipes médicales sillonnent la zone pour éviter la propagation de la maladie. D'après le dernier bilan, au moins 21 personnes sont mortes sur les 52 malades recensés. Outre la région de Tawa, des cas suspects ont été signalés à Ingal, une localité touareg de la région d'Agadez. Ingal accueille à partir d'aujourd'hui la grande fête annuelle des éleveurs du Niger et des États voisins avec des millions d'animaux. D'après l'OMS, la fièvre de la vallée du Rift, une maladie virale touchant les animaux, peut se transmettre à l'homme. Le taux de mortalité est autour de 50% et les décès surviennent généralement 3 à 6 semaines après l'apparition des symptômes.
À New York, poursuite de la 71e Assemblée générale de l'ONU, nous retrouvons notre envoyé spécial Timothée de Langmaï.
Les chefs d'État et de gouvernement continuent de se succéder à la tribune de l'ONU où se poursuit le débat de cette 71e Assemblée générale avec en marche plusieurs réunions de haut niveau et autres manifestations. Ainsi, ce vendredi, deux rencontres de haut niveau ont lieu sur la crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad et l'exploitation du dividende démographique en République démocratique du Congo. Une autre manifestation de haut niveau sera consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains et la migration forcée. Hier, la réunion de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des genres a été l'occasion pour le secrétaire général Ban Ki-moon d'exhorter la communauté internationale à en faire plus pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, en particulier en matière d'emploi. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, l'armée gouvernementale a lancé une offensive majeure contre la partie rebelle de la ville d'Alep, dans le nord du pays. Pour sa part, la communauté internationale n'est pas parvenue à imposer une trêve, mais les États-Unis et la Russie doivent encore discuter aujourd'hui. Alep a subi depuis mercredi un déluge de bombes et plusieurs quartiers de la partie orientale de la ville, contrôlée par les rebelles, étaient en feu hier.
À Charlotte, en Caroline du Nord, ici aux États-Unis, des centaines de manifestants continuaient de défiler dans les rues de la ville malgré le couvre-feu entré en vigueur depuis minuit, a constaté un correspondant de l'AFP. Il continue de défiler dans les rues et c'est terminé maintenant avec le couvre-feu, selon les dernières nouvelles. Plusieurs centaines de personnes étaient toujours donc dans les rues avant le couvre-feu, sous l'œil des militaires de la garde nationale, pour la troisième nuit consécutive de manifestations destinées à dénoncer le meurtre d'un noir par un policier.
Ici à Washington, bras de fer entre le Congrès et le président Barack Obama, qui doit opposer aujourd'hui son veto à une loi autorisant les proches des victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite. Les monarchies du Golfe ont mis en garde contre un grave précédent. Pour la Maison-Blanche, cette loi affaiblira le principe d'immunité qui protège les États et leurs diplomates de poursuites judiciaires. Et risque, par un effet boomerang, d'exposer les États-Unis à des poursuites devant divers tribunaux à travers le monde.
Au Venezuela, où d'abord le groupe Internet Yahoo a annoncé hier que 500 millions de comptes de ses utilisateurs ont été piratés fin 2014 par une entité probablement liée à un État. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par un communiqué que Yahoo a reconnu le piratage de 500 millions de comptes. Les hackers ont volé les noms, les téléphones, les dates de naissance et les mots de passe des personnes ayant créé un compte sur la plateforme. Yahoo certifie que les données bancaires des utilisateurs n'ont pas été affectées. Le groupe Internet travaille en étroite collaboration avec les autorités américaines pour tenter de déterminer l'identité des hackers. Une entité probablement liée à un État est soupçonnée, mais le portail américain ne donne aucun nom. S'il affirme avoir pris les mesures nécessaires pour sécuriser les comptes piratés, Yahoo recommande aux utilisateurs n'ayant pas changé leur mot de passe depuis 2014 de le faire dès que possible et de vérifier si leurs comptes n'ont pas eu d'activité suspecte. Enfin, Yahoo préconise de ne pas cliquer sur des liens ni de télécharger des pièces jointes venant d'adresses électroniques suspectes et d'être vigilant sur toute requête portant sur une demande d'information personnelle.
Au Venezuela, l'opposition se remobilise pour maintenir la pression sur le pouvoir. Et ce, après que les autorités électorales ont écarté tout référendum contre le président Nicolas Maduro en 2016, faisant ainsi disparaître les espoirs d'une alternance politique dans ce pays en crise. Les anti-chavistes, du nom du défunt président Hugo Chavez, tiendront une réunion dimanche rassemblant tous leurs dirigeants régionaux pour définir les actions légales à mener et les manifestations à organiser pour continuer à faire pression.
Un séisme de magnitude 6,4 est survenu aujourd'hui en mer au large des côtes orientales du Japon. C'est ce qu'a indiqué l'Institut géologique américain. Pas de victimes ni de dégâts matériels dans l'immédiat. aucune menace de tsunami n'était constatée, selon l'agence japonaise de météorologie, dont la mesure de la magnitude était légèrement différente de celle de l'Institut américain, 6,5.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Anastasie Toudièche.
L'agriculture au sens large demeure en Afrique la voie indiquée, a affirmé Amadou Ba, le ministre sénégalais de l'économie, lors des rencontres Africa 2016. L'événement, organisé à Paris sur 2 jours, les 22 et 23 septembre, réunit plus de 300 entreprises africaines et plus de 500 françaises. Sénégal toujours, où les prix à la consommation sont en hausse de 0,9%, des chiffres fournis par la direction de la prévision et des études économiques et retransmis par l'agence APA News. Au Burkina Faso, le gouvernement projette des dépenses budgétaires en hausse pour 2017 à hauteur de 33,81%. En Guinée, 50 000 logements vont être construits dans la banlieue de Conakry. Power China Engineering, l'entreprise chinoise responsable du chantier, vient d'en dévoiler le concept. Ce projet fait partie de Grand Conakry Vision 2040, initié par la SONAPI, la Société nationale de la promotion immobilière. Au Congo-Brazzaville, la filiale locale de Mercure International of Monaco vient d'ouvrir à Brazzaville le premier hypermarché du Congo. L'hypermarché s'inscrit dans un vaste centre commercial dont les travaux seront achevés d'ici à la fin de l'année.
À présent, les sports avec Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Réforme de la Ligue des Champions, l'Association européenne des ligues de football professionnel s'y oppose.
Le Suédois à la tête de cette association a même brandi la menace d'une révolte des ligues face aux instances du football européen. Pour lui, la réforme de la Ligue des Champions est un scandale. L'UEFA avait, en pleine vacances du pouvoir à la fin du mois d'août, décidé que pour la période 2018-2021, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie auraient 4 places garanties en phase de poule de la Ligue des Champions au nom de leurs bons résultats passés dans l'épreuve reine européenne.
Euro 2020, Rome accueillera 4 matchs mais se rétracte pour abriter les JO 2024.
Tout à fait. La maire de la capitale italienne, Virginia Raggi, s'est dite honorée que sa ville accueille plusieurs matchs de l'Euro 2020 de football, un événement important du sport mondial. Par contre, Mme Raggi a retiré le soutien de la municipalité de Rome à la candidature de la ville pour les Jeux Olympiques 2024, la jugeant irresponsable.
Espagne, FC Barcelone, 3 semaines d'absence de Messi sur le terrain.
L'attaquant du FC Barcelone est sorti sur blessure lors du choc contre l'Atlético Madrid, 1-1 mercredi en championnat d'Espagne. Lionel Messi souffre d'une déchirure à une cuisse et sera absent environ 3 semaines, selon le club catalan.
Retour en force de Mario Balotelli.
L'Italie du football assiste à la résurrection niçoise de Mario Balotelli et se souvient qu'un avant-centre de talent serait bien utile à son équipe nationale. 4 buts en 3 matchs pour celui qui en avait inscrit 3 durant toute la saison dernière au Milan.
Angleterre, Mourinho fustige les Einstein du football.
José Mourinho s'en est pris aux Einstein du football à la suite de la rafale de critiques qui ont accompagné le catastrophique début de saison de Manchester United. Les Mancuniens ont enregistré 3 défaites d'affilée la semaine dernière. La série noire s'est arrêtée mercredi, certes, avec une victoire face à Northampton 3-1 en Coupe d'Angleterre, mais le technicien n'a visiblement pas digéré certains commentaires, comprenant la déception des fans. Mourinho a assuré que l'équipe va revenir jouer à domicile et plaire à nouveau.
Athlétisme, l'agence mondiale antidopage dans les viseurs du CIO.
Attaqué récemment par des hackers, mais aussi et surtout par la famille olympique, qui appelle à une réforme profonde du système de lutte antidopage, l'agence mondiale antidopage AMA est menacée dans sa structure et sa configuration actuelle. Le président du CIO a enfoncé le clou le 16 septembre, dans une lettre de 6 pages adressée aux membres de son instance, Thomas Bach a appelé de ses voeux un système antidopage plus robuste et plus efficace, nécessitant des responsabilités clairement établies, plus de transparence, plus d'indépendance et une meilleure harmonisation au niveau mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le dialogue lancé il y a 3 semaines et suspendu à la suite des violences meurtrières de lundi et mardi, va-t-il se clôturer aujourd'hui comme prévu? C'est la grande question, car depuis ces violences, toutes les parties souhaitent un dialogue plus inclusif, élargi au rassemblement, coalition de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi. C'est un dossier d'Eddie Issango.
Les dialogues étaient en fait déjà au point mort avant les manifestations violentes et plusieurs partis, notamment la société civile, avaient suspendu leur participation. L'Église catholique l'a fait après les violences. La Conférence épiscopale nationale du Congo, qui s'est mise à l'écart, n'est pas prête à y revenir vendredi pour la clôture. C'est ce qu'explique l'ex-secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet.
Bon, on ne sait pas reprendre tout de suite parce que les raisons pour lesquelles nous avons suspendu sont encore là. Il y a le deuil, mais il y a aussi, on s'est donné ce temps pour chercher un consensus plus large. Les évêques qui travaillent, on attend les résultats.
Les évêques catholiques estiment qu'un dialogue sans l'opposition qui boycotte les assises présentement en cours ne résoudra pas la crise. De nouveau, l'abbé Cholet.
Les événements que nous avons vécu, le 19 et le 20, parlent assez pour comprendre que si on clôturait le dialogue sous ce format-là, une bonne partie des acteurs politiques et de la population aussi ne se sentirait pas concernée par ce dialogue. Donc on aura fini un dialogue, mais la crise continuerait.
La CENCO, mais aussi les diplomates, ont continué jusqu'à tard jeudi les tractations avec les rassemblements qui exigent entre autres un facilitateur autre qu'Edem Kodjo. L'espoir de parvenir à un dialogue plus inclusif demeure, selon les porte-parole d'Étienne Tshisekedi, Bruno Tshibala.
Il était venu proposer au rassemblement d'aller à un dialogue inclusif avec un autre facilitateur sur le fond. Le rassemblement a rappelé son attachement au dialogue, qu'il ne s'est jamais départi de cette option, mais en rappelant que ça doit être toujours le dialogue conforme à l'accord Addis Abeba et à la résolution 2277. Il a réaffirmé la récusation de M. Kodjo en disant que si c'est un autre facilitateur, le rassemblement est prêt à rejoindre la table de négociation afin de trouver un compromis et aller à un processus électoral apaisé, mais dans le respect de la Constitution.
Les évêques catholiques exigent entre autres que les dialogues soient sanctionnés par un communiqué qui stipulerait clairement que le président Joseph Kabila ne se représentera pas à un troisième mandat. Comme eux, l'opposition présente au dialogue voudrait que la nouvelle date de la présidentielle soit connue avant la fin de ses assises.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Guinée, l'opposition et la mouvance ont repris le dialogue politique hier à Conakry. Les deux partis doivent discuter des conditions de l'organisation des élections locales et de bien d'autres questions, comme la détention des personnes arrêtées lors des manifestations de rue organisées par l'opposition. Zakaria Camara.
Les conclusions issues du dialogue seront respectées, a promis le ministre guinéen de l'administration du territoire. Bourema Condé a voulu rassurer l'opposition, une opposition qui cherche des garanties quant au respect des accords politiques. Son porte-parole semble optimiste après une journée de concertation. Aboubacar Sylla pense que les conditions sont réunies pour dialoguer.
Il y a des passerelles aujourd'hui entre le pouvoir et l'opposition. Et le discours est beaucoup plus convivial que par le passé. Et la crise, disons, est surmontée depuis quelques temps. Donc nous pensons que c'est le moment idéal de discuter tranquillement.
L'opposition guinéenne se dit rassurée par les promesses du chef de l'État. Le président Condé a recommandé il y a quelques jours le respect des accords politiques. Son camp politique apprécie la reprise du dialogue. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle.
Aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne. Tout s'est passé dans un cadre apaisé, dans une atmosphère de respect mutuel.
L'optimisme des deux camps qui discutent est largement partagé par la société civile guinéenne. Mohamed Ansa Diawara.
Vu l'engouement que nous avons vu dans la salle des actes ici avec la représentation de toutes les invitations, il y a eu une représentation effective que nous avons constatée. Cela vraiment augure un bon lendemain. En tout cas, notre attente est très grande au lendemain de cette rencontre.
Au cours de ce dialogue, l'opposition et la mouvance présidentielle vont discuter de plusieurs points, parmi lesquels la relecture des accords du 20 août 2015, les conditions d'installation de la Haute Cour de justice, la situation des personnes arrêtées lors des manifestations de l'opposition et la mise en place d'un organe de suivi pour l'application des accords politiques en Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
À New York s'est tenue cette semaine, en marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU, le deuxième forum des affaires États-Unis-Afrique. Notre envoyé spécial Tatiana Mosso en tire les conclusions ici avec le président du Sénégal, Macky Sall.
Vous avez plusieurs forums, Afrique-Asie, Afrique-Chine, Afrique-Japon, avec l'ATICAD, Afrique-USA. Il y a 2 ans, Barack Obama avait initié ce forum qui a déjà commencé à produire ses effets. Puisque au-delà des États, ce qu'il faut renforcer et développer, c'est l'investissement privé. Or, avec le forum US-Africa, nous avons vu le développement de l'investissement privé américain rentrer en Afrique assez rapidement. Tout à l'heure, j'ai supervisé 3 cérémonies de signature sur le domaine de l'électricité pour à peu près 700 millions de dollars. Vous voyez, 700 millions, c'est plus que notre coopération avec les États-Unis depuis les 10 dernières années. Donc c'est avec le secteur privé qu'on pourra véritablement atteindre des niveaux d'investissement très importants pour l'Afrique. Là, l'OPIC a participé à ces financements auprès de compagnies américaines qui viennent produire de l'électricité au Sénégal, aussi bien dans le dual fuel, c'est-à-dire les sources alternatives mixtes, mais aussi dans l'éolienne, donc les énergies renouvelables, et même bientôt dans le solaire également. Et je pense que ce sont là des résultats extrêmement importants qu'il faut saluer.
Quelle est la différence entre les investissements américains et chinois ou européens, par exemple ?
Vous savez, l'argent n'a pas de couleur. Donc, il faut éviter de donner des couleurs à la nature des investissements. Mais ici, nous sommes dans un investissement de type privé. Donc, ce sont des partenariats avec la production d'électricité, ce qu'on appelle des IPP, Independent Producer Power Producer. Donc, il y a des Américains, il y a aussi des Français. Dans cela, il y a même les organismes sous-régionaux autour du Sénégal. Donc là, ce sont des partenariats publics-privés. En général, avec la Chine, ce sont des EPC, c'est-à-dire Engineering Procurement. Et donc, eux, ils financent des projets d'infrastructure que réalisent leurs entreprises et qui sont donc rétrocédés aux États et qui les remboursent sur de longues périodes. Donc, selon les cas, nous avons besoin de tous ces types d'investissements. L'Afrique est dans une phase d'investissement importante, donc il faut beaucoup, beaucoup d'investissements. Nous prenons tous les investissements pourvu, bien sûr qu'ils soient rentables et que la dette soit soutenable et que aussi la qualité des infrastructures soit une qualité positive.
Le président du Sénégal, Macky Sall.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Pour revenir aux Nations Unies, le Burkina Faso attend beaucoup de l'ONU face à la situation qu'il traverse, avec des attaques terroristes à répétition alors que le pays est engagé dans un processus de réconciliation nationale. En marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU, Timothée Donangmaï s'est entretenu avec le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry.
Nous nous sommes venus ici avec une question principale, un rendez-vous principal, c'était celui de rencontrer le département chargé du maintien de la paix, notamment le département de M. Lapsous, sur la question du Mali et sur la question qui nous concerne. Comme vous le savez, nous sommes frontaliers du Mali, on partage 1300 kilomètres et nous subissons beaucoup d'attaques, dont la source est bien entendu le Mali, où nous avons des troupes. Nous avons jusqu'à 2 bataillons et nous avons souhaité qu'il y ait un réaménagement de ces bataillons pour nous permettre d'être protégés. En l'espace d'une année, nous avons subi 12 d'attaques, toutes ces attaques en provenance donc du Mali. Et ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir 1700 hommes au Mali et les gens traversent la frontière et viennent nous attaquer et repartent allègrement soit par cette frontière, soit par celle du Niger. Et nous avons eu une séance de travail aux Nations Unies ici qui a été assez fructueuse.
C'est à croire que le Burkina s'est retrouvé à la croisée des catastrophes avec les attaques terroristes, mais aussi du côté de l'environnement, la sécheresse. Avez-vous vu des indices de solution pour le Burkina?
Oui, là je sors d'une réunion de la consolidation de la paix. C'est une réunion qui est assez importante puisqu'elle a permis d'annoncer beaucoup de contributions, les contributions des donateurs à ce fonds de consolidation de la paix, un fonds qui va aider le Burkina à non seulement à restructurer le secteur de la sécurité, mais également à financer des projets dans le sens de la réconciliation nationale. C'est important parce que la restructuration du secteur de la sécurité est quelque chose d'assez important dans le processus dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la sortie des crises. Même si le Burkina n'a pas connu de conflits en tant que tel, mais c'est un pays qui a vécu 2 années d'agitation politique lié au fait que ceux qui dirigeaient le pays ne voulaient pas partir au terme de leur mandat. Et vous connaissez la suite de l'histoire puisqu'il y a eu une insurrection populaire avec un départ forcé de ses dirigeants et il y a eu une année de transition. Donc on a vécu 3 années de crise et nous travaillons pour la relance économique du pays et cela passe donc par une sécurisation du pays. Et je vous ai parlé de toutes les attaques que nous subissons du fait de notre proximité avec le Mali. Donc voilà quelque chose qui est important, mais pour la même occasion où je vous parle de crise politique aiguë que nous avons vécue, il y a nécessité de réconcilier les Burkinabés. Donc il y a un processus de réconciliation qui est en cours et sur ça nous comptons sur l'appui des Nations Unies.
Le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Chance pour moi parti.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.